Mes amis, vous avez donc tous reçu ce soir ce petit dépliant bleu dont je vous ai parlé il y a un instant et qui vous rappelle le thème général de notre dernière retraite de l'année 1991 et qui est le don de prophétie exercé en accord avec la foi. C'est un texte que nous trouvons dans le chapitre 12 des Romains. Et ce dépliant vous annonce aussi le programme de cette première soirée et l'horaire, ainsi que les activités des jours suivants. Parce que je veux croire que si vous avez reçu ce petit dépliant, vous le lisez. Mais Mme Badet me dit que c'est des fois étonnant d'entendre au téléphone des personnes demander tous les détails qui sont sur le dépliant, comme si celui qui veut s'inscrire n'avait pas même lu ce qui se trouve sur le dépliant. Alors, si on vous envoie un dépliant, lisez-le. Et vous saurez de quoi il retourne quand on vient dans cette retraite. Je pense que vous avez le temps de lire cela et vous l'avez avec vous. Mais vous remarquerez en tout cas les personnes qui sont déjà venues à ces retraites, vous remarquerez de suite un petit changement qui met apparu nécessaire pour le bien de tous. Le vendredi soir, tous n'arrivent pas à la même heure à cause de leurs tâches qu'ils n'ont pas terminées ou à cause de la distance. Ainsi, ce soir, il y a quelques personnes qui viennent de Rock Forest et qui ont un long parcours à faire et d'autres sont venus aussi d'ailleurs. Alors, pour que ces personnes ne soient pas trop frustrées, je ne parlerai pas ce soir du thème qui est annoncé. Nous commencerons ce thème réellement demain matin. C'est pour ça que j'ai remis la vraie introduction de ce thème à demain. Ainsi, ce soir, la parole de bienvenue ne sera pas un vœu biblique qui vient de mon cœur qui vous aime, mais un avertissement solennel que Jésus lui-même nous adresse à tous en ces termes que vous pouvez lire sur le tableau. Ce que je vous dis, c'est Jésus qui parle, ce que je vous dis à vous, il s'adressait à ses disciples, je le dis à tous. Veillez. Ce veiller, il le dit à moi, d'abord. À moi qui ai la responsabilité de vous enseigner l'Écriture sainte. Mais il le dit aussi à vous, qui devez prendre garde à la manière dont vous écoutez l'instruction que vous recevez pour la mettre en pratique. Sachant que c'est l'Esprit Saint qui veut vous faire saisir la pensée même de Dieu dans cette soirée. Et si c'est le Seigneur lui-même qui introduit cette retraite par un avertissement adressé à tous, nous pouvons croire que lui-même terminera ses journées en nous donnant à tous cette grâce de la vigilance dont il exhortait, comme vous le savez, l'église de Sardes dans Apocalypse, chapitre 3, versets 2 à 3. En ces termes, qu'est-ce que nous lisons dans Apocalypse 3? Sois vigilant et affermis le reste qui va mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est le Seigneur qui parle. Il disait à cette église de Sardes qu'il n'avait pas trouvé les œuvres de cette église parfaites devant son Dieu. Moi, je ne sais pas à quel groupe vous appartenez. Mais ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il examinait chacune de nos communautés, chacune de nos églises, et qu'il avait une appréciation au sujet de ce qui se passe dans tous nos milieux religieux. Eh bien, à Sardes, il lui disait, sois vigilant. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Vous vous souvenez peut-être du commencement de vos groupements. Comment vous avez reçu, comment vous avez entendu la vie qu'il y avait dans vos milieux, la communion que vous réalisiez. Souviens-toi. Et garde ce que tu as reçu et repens-toi. Et l'avertissement continue, et il vient non pas de moi mais de Jésus. Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi. Donc, mes amis, en cette soirée du 22 novembre 1991, 40 jours exactement avant la nouvelle année 1992, dont nous ne savons rien, Jésus nous accueille ce soir en nous rappelant ce qu'il disait à ses disciples peu de temps avant de les quitter. Je lis le texte dans Marc, au chapitre 13, verset 37, et c'est le texte qui est sur le tableau, « Ce que je vous dis à vous ». Ses disciples, je le dis à tous, veillez. Il y avait parmi ses disciples quelques-uns qui pensaient que eux, ils étaient parfaits. Ils n'avaient aucun reproche à se faire. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui se sent parfait quant à toute cette année écoulée? Et qui n'a aucun reproche à se faire. Jésus lui dit qu'il a examiné ses œuvres. Et lui qui ne se trompe pas et qui ne s'est pas flatté, déclare qu'il ne les a pas toutes trouvées parfaites. Et ça me concerne aussi. Pierre pensait que tous pouvait renier le Seigneur. Mais il ajoutait, mais moi, je ne te renierai pas. Et c'est pourquoi j'insiste sur ce fait que Jésus lui-même, qui sait tout de nous, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, disait « Ce que je vous dis ce soir, je le dis à tous, veillez. » Père, rends-nous attentifs à la parole de ton Fils. Afin que cette heure et cette soirée soient profitables à tous dès les premiers instants de cette retraite pour ta seule gloire en Jésus-Christ. Amen. Si nous lisions le chapitre 13 de l'évangile de Marc, nous verrions que cet appel à veiller Jésus l'adresse à ses disciples alors qu'il terminait l'exposé que les apôtres lui avaient demandé au sujet de toutes les choses qui devaient s'accomplir avant la venue du Fils de l'homme sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Vous avez qu'à relire tout ce chapitre et vous verrez que c'est à la fin de ces explications sur les derniers jours qui précèdent sa venue que Jésus leur dit « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Refusant de fixer un jour et une heure à ses disciples, il les exhortait à prendre garde, à veiller, à prier, car nul ne savait quand ce temps viendrait. Et sa conclusion, qu'il vous rappelle aujourd'hui, 22 novembre 1991, il nous la répète en nous accueillant, parce que ce n'est pas moi qui vous accueille ce soir. C'est lui qui vous accueille et qui m'accueille avec vous. Je ne veux être que l'auditeur de sa parole et je n'ai qu'une ambition, c'est de vous la transmettre avec fidélité et vérité. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Et je vous fais une première remarque. Ce n'est donc pas moi qui vous parle, c'est Jésus. Donc, aucun de vous n'est visé. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs. Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que tous ici, nous sommes concernés. Le Seigneur nous prend à part. Vous savez, comme moi, une année fertile en événements imprévus va se terminer. Et pour beaucoup, cette année a été difficile, malgré les handicaps que j'ai connus cette année. J'ai pourtant beaucoup voyagé, et partout où je suis allé, j'ai rencontré des gens dans la difficulté, dans la peine, beaucoup se plaignant de leur sort, n'arrivant pas avec leur budget, étant vraiment angoissés. Pour les uns, c'est le chômage. Ce sont les taxes de plus en plus élevées, la diminution de salaire, une insécurité matérielle comme on n'a jamais ressenti, et puis les soucis pour les enfants, à un tel point que certains, même dans les milieux évangéliques, prêchent qu'il ne faut plus avoir d'enfants. Il faut prendre tous les moyens pour empêcher les enfants de venir. Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? C'est presque un crime qu'une femme soit enceinte. J'ai entendu des choses qui m'ont vraiment bouleversé, que des chrétiens puissent en arriver là. Comme si ce n'était pas Dieu qui ouvre et qui ferme la matrice. Mais on est tellement loin de cette parole. On est tellement rempli des idées modernes et de toutes les possibilités qu'a la science pour que ce soit nous qui décidions si c'est un ou deux. De sorte que, quelquefois, on est réjoui quand on entend une personne nous dire qu'elle attend son sixième. Avec un sourire, avec joie, et pas parce que son mari a reçu une grande augmentation, mais parce qu'elle sait qu'elle a un Seigneur, et que si cette merveille se forme en elle, le Seigneur aussi y pourvoira. Mais voilà, quand même les questions se posent, que sera l'année qui vient? Que se passera-t-il? Eh bien, la parole de Dieu nous rappelle que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 38. Qui dit une chose, elle arrive si Dieu ne l'a pas commandée. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Et ce n'est pas en contradiction avec cet autre verset des Proverbes qui vous dit « Aucun malheur n'arrive au juste ». Pourquoi? Parce que même les maux que Dieu permet, il les fait toujours travailler à notre bien suprême. De sorte qu'il n'y a pas de contradiction dans l'Écriture. C'est de sa main que nous recevons les biens, mais c'est aussi de sa main que nous recevons les maux, non pas parce qu'on pense que Dieu nous abandonne, nous délaisse, ne nous aime pas, ou se plaît à nous châtier, mais parce qu'il veut nous faire avancer au travers de ces circonstances difficiles et nous donner l'occasion de nous manifester sa puissance en délivrant. Alors, vous êtes d'accord que rien n'arrive sans sa volonté? Oui? Bon. Eh bien, est-ce que vous êtes aussi d'accord que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur? Pas moi qui le dis. C'est aussi une parole que nous avons étudiée ensemble dans le chapitre 8 des Romains, où l'apôtre Paul passe en revue toutes les catastrophes qui pourraient survenir, et il dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et que rien, jamais rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est l'assurance que Paul avait au fond de sa prison à Rome. Et cette assurance, il l'écrivait à ses chers Philippiens qu'il avait évangélisés, puisque la ville de Philippe est la première ville d'Europe qui a été évangélisée par l'apôtre Paul. Alors, toute la Bible nous montre, dès la première page de la Genèse, que Dieu, lorsqu'il commence une œuvre, il la poursuit malgré les obstacles et que son œuvre, il l'amène à la perfection. Est-ce vrai ou est-ce faux? Quand c'est Dieu qui commence une œuvre, est-ce qu'il se laisse arrêter par les obstacles? Non. Il la poursuit et il l'amène finalement à la perfection. Puisque dans la création, on voit que après l'œuvre du sixième jour, Dieu regarde et il constate, et lui qui a dit chaque jour que c'était bon, il finit par dire que c'est très bon. Alors il serait facile de faire la démonstration de ce que nous affirmons ici en relisant le premier chapitre de la Genèse et en méditant l'œuvre de la création que Dieu amena à la perfection, mais en l'appliquant par le Saint-Esprit à l'œuvre de la rédemption. Ce travail que Dieu accomplit est dans nos âmes par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Je vous l'ai dit souvent, comme les rabbins juifs le signalent, pour chaque verset biblique, il y a au moins 70 sens différents, mais pas contradictoires. Mais donc, vous pouvez lire 70 fois le même passage et y trouver toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui s'illumine en vous et vous réjouit. C'est pourquoi on peut vraiment dire, comme Jérémie, que la parole, elle nous fait vivre. Et on ne se lasse pas de la lire. Et plus on la lit, plus on prend goût à la lire encore. Si nous suivions cette piste que je viens de vous signaler, de reprendre le premier de la Genèse et de le considérer non plus comme l'œuvre de Dieu dans la création qu'il mène à la perfection, mais comme l'œuvre de Dieu qu'il accomplit en chacune de nos âmes, eh bien, vous pourriez savoir où en est votre vie spirituelle. Est-ce que vous aimeriez savoir ça? Où en est votre vie spirituelle en cette fin d'année 1991? Est-ce que cette œuvre a commencé en vous? Je veux le croire. Hein? Mais est-ce que vous êtes au premier jour de cette œuvre? Ou est-ce que vous êtes au quatrième jour de cette œuvre spirituelle? Ou est-ce que vous approchez du sixième jour? Autrement dit, est-ce que nous sommes encore dans l'enfance spirituelle du premier jour, dans l'adolescence des jours qui suivent, ou est-ce que nous approchons de l'état d'homme fait, de la maturité spirituelle? Alors je me permets de vous poser une question affectueuse. Dieu a-t-il pu commencer son œuvre dans notre cœur? Ou notre âme est-elle encore dans l'état qui nous est révélé au verset 2 de ce premier chapitre de la Bible? Vous connaissez par cœur ce chapitre, hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Et au verset 2, qu'est-ce que nous trouvons? Et la terre était informe, désolation et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Qu'est-ce que cela nous montre? Bien, ça nous montre, j'en suis absolument persuadé, comme l'était déjà saint Augustin, que nous avons là, au verset 2, l'état de notre âme après la chute, si on veut en faire une application spirituelle. Parce que, dans ce verset 2, vous y retrouvez des expressions qui caractérisent bien une âme sans Dieu et sans espérance dans le monde. Informe, désolation, vide. Alors que dans le chapitre 45 d'Ésaïe, au verset 18, il est dit que Dieu n'a pas créé la terre pour être vide. Et nous entendons sans cesse des âmes nous dire qu'elles sont un vide au fond d'elles-mêmes. Que tout est informe en elles, que c'est vraiment le tohu-bohu. Que leur vie est bouleversée, qu'ils ne voient pas la lumière, qu'ils se trouvent dans les ténèbres. Et ils sont, en quelque sorte, attirés par l'abîme. On m'avait dit l'autre jour, quand j'étais dans la Bitibi, exactement à Rouen, où je faisais une conférence, que c'est là, dans le coin, qu'il y a vraiment le plus de suicides. De jeunes qui n'ont pas 20 ans. On nous dit, d'après les statistiques, que c'est le Québec qui a le plus de suicides de jeunes qui n'ont pas 20 ans dans le monde entier. Notre province passe en premier pour les suicides, pour les gens qui sont désespérés, désolation, vides, attirés par l'abîme, sinon par le métro. Quand on est à Montréal, c'est quand même terrible. Est-ce qu'il y aurait ici une âme dans cet état du verset 2? Mais je dirais tout de suite que Dieu n'a pas voulu nous laisser ainsi. Il ne le veut pas. Parce quel a été le but de Dieu en créant nos âmes? Il les a prédestinées à quoi? Il les prédestinait aux humiliations du sépulcre, à la mort, aux humiliations du sépulcre, à un tombeau, à un cimetière? Non. Il nous prédestinait à la gloire éternelle, à être semblable à l'image de son Fils. Voilà le dessein de Dieu. Donc Dieu ne veut pas un seul instant que vous soyez dans ce vide qui vous caractérise et qui rend malheureux votre entourage. Alors que vous devriez être un cœur qui déborde. Et qui déborde non pas de reproches sur les autres, mais qui déborde d'amour. Parce que ceux qui vous entourent ont besoin de cet amour, que vous soyez jeune ou que vous soyez plus âgé. Les parents ont besoin de l'amour de leurs enfants, et les enfants ont besoin de l'amour de leur mère, de l'amour de leur père. Ceux qui travaillent avec nous, ils ont besoin aussi de l'amour. Dieu ne veut pas nous laisser ainsi, comme il n'a pas laissé la terre dans cet état de désolation et de vide du verset 2. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et bien, appliquez cela à vos âmes. Quand vous commencez d'être malheureux, et convaincu de péché, et que vous voyez que vraiment ça ne va pas, qu'est-ce qui plane déjà au-dessus de vous? Qu'est-ce qui est donné pour nous convaincre de péché? Selon Jésus, le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux, le Saint-Esprit plane sur ce monde, plane au-dessus des âmes, et quand la parole Moi, qu'une âme est convaincue de péché, eh bien, le Seigneur parle que la lumière soit. Je n'invente rien parce que dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il est dit exactement ces paroles au chapitre 4. Vous lisez ceci. Je lis depuis le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens chapitre 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Comme Dieu a dit un jour que la lumière soit, il a aussi voulu que sa lumière entre dans nos cœurs. Et c'est cela la vraie conversion. On ne connaît pas encore beaucoup de choses du Seigneur, mais comme on le chante si souvent, je ne sais comment la lumière éclaira tout mon cœur. Hein. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Vous l'avez chanté ce cantique. Mais est-ce que c'est une réalité dans votre vie ce soir? Ce serait le premier jour de la vie chrétienne. Mais il y a un second jour, il y a un troisième jour, et c'est intéressant de suivre cette piste. Il y a un quatrième jour, il y a un cinquième jour, il y a un sixième jour, et finalement c'est le repos éternel. Quand on est arrivé à l'état d'homme fait, au sixième jour. Alors je veux croire en ce soir du 22 novembre 1991 que Dieu a commencé son œuvre en vous. Et c'est pourquoi Jésus nous rappelle cet avertissement solennel, quel que soit notre degré de spiritualité. Quel que soit le degré de spiritualité que vous pensez avoir atteint ce soir, Jésus vous dit ce que je le dis à tous, donc à moi, mais aussi à vous. Et quel est son mot? Veillez. C'est donc à la vigilance chrétienne que j'ai à vous parler ce soir. J'ai à vous parler de cette vigilance chrétienne. Je voudrais vous en dire quelques mots pour introduire en quelque sorte toute notre retraite. Cette dernière de l'année. Cette vigilance, c'est un appel à être attentif, à ne pas dormir, à exercer une surveillance soutenue, à veiller donc sur quoi? Sur nos voies. Quel chemin suivons-nous? Dans quelle trace poursuivons-nous notre course? Il désire que nous veillons sur nos pensées, mais aussi sur nos paroles, parce que nous faisons beaucoup de mal avec nos paroles. nous blessons, nous décourageons. De veiller sur nos actions. Vous me direz, mais moi je fais de mal à personne. C'est pas sûr. Puis de veiller aussi sur les affections de nos cœurs. Et aussi sur les dons que nous avons reçus pour les exercer à sa gloire. Vous avez tous reçu quelque chose. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? De perdre du temps parce que vous ne voulez pas pardonner ou que sais-je encore? Et si le Seigneur revient ce soir? Veillons. Il nous dit veillons, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Je ne veux pas vous effrayer, mais je me sens interpellé moi-même. J'ai peu de temps. Alors je voudrais diviser rapidement ce sujet de la vigilance en trois parties. Premièrement, puisque Christ nous ordonne de veiller, c'est que cela implique qu'il y a pour l'enfant de Dieu des dangers à éviter. Est-ce vrai ou faux? Est-ce que, dans ce monde, il y a pour nous des dangers à éviter? Vous êtes d'accord? Puisqu'il nous dit de veiller, ça veut dire quelque chose. C'est pas gratuit. Il ne cherche pas à nous effrayer. Alors, premièrement, le Seigneur nous avise qu'il y a des dangers à éviter. Deuxièmement, puisqu'il nous dit de veiller, c'est qu'il y a pour nous des responsabilités que nous devons assumer. Car vous savez que pour celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché. Eh bien, voilà pourquoi nous devons veiller. Parce que nous manquons une foule d'occasions. Nous, les chrétiens, nous voulons toujours faire des choses pour le Seigneur et nous ne sommes pas même capables d'accomplir ce qu'il nous demande quotidiennement. C'est bien pour cela que Jésus disait à ses disciples, après que vous aurez fait tout ce que je vous ai dit de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est vrai ça, hein? Et je m'applique à moi. Et pour celui qui sait faire le bien qu'il ne fait pas, pour lui c'est péché, c'est Jacques, chapitre 4, verset 17. Et quand j'étais sur la table d'opération à l'âge de 18 ans et qu'on pensait que je ne m'en remettrais pas, eh bien ma conviction de péché, c'était pas en pensée, en parole et en acte, mais c'était les occasions manquées. J'avais 18 ans, depuis 4 ans j'appartenais au Seigneur. Qu'est-ce que j'avais fait pour lui? Quelle place avait-il eu réellement dans mon cœur? Est-ce que j'avais aimé de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée? Et j'allais paraître devant lui. Enfin, il y a un troisième point. S'il faut veiller, c'est que nous avons des trésors à conserver. Et nous ne devons pas nous les laisser ravir. Nous avons des trésors à conserver. Et je voudrais dire maintenant, et que ça se fixe dans votre sensibilité, dans la mienne, parce que je me prêche à moi-même, toutes nos chutes, je pèse mes mots, toutes nos défaillances, passées ou futures, parce que nous ne sommes pas encore des saints, nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection. Paul lui-même le dit, qu'il n'a pas encore obtenu le prix. Il court. Mais enfin, toutes nos chutes, toutes nos défaillances, passées ou futures, ont une explication claire et simple. L'amour et la puissance de Dieu ne sauraient être en cause. Est-ce que vous êtes d'accord? quand il y a une chute, quand nous avons manqué, quand nous avons été défaillants, est-ce que c'est l'amour et la puissance de Dieu qui doivent être mis en cause? Mais c'est toujours ce que l'on fait. On rend toujours Dieu responsable. Pourquoi a-t-il permis? C'est déjà trop. C'est déjà trop. Parce que c'est une façon de l'accuser. Tu n'as pas veillé sur nous. Alors qu'il veille sans cesse. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, celui qui te garde. Alors donc, ne le mets pas en cause. Alors on met en cause la faiblesse de notre chair. Hein, oui, on dit que notre chair est faible. C'est vrai? Ou bien alors la présence du péché dans la chair, parce que le péché, il est encore dans notre chair, nous le savons bien. Et alors, on s'excuse, que voulez-vous jusqu'au bout? Bien, le péché est dans la chair, et puis la chair est faible, et c'est à cause de cela, on a une explication pour nos chutes. Ce n'est pas vrai. Alors, on avance une autre excuse. La séduction du monde dans lequel nous vivons. On est tous les jours dans le monde. Et que voulez-vous? Eh bien, on subit cette pression du monde. Et alors, voilà, nos chutes, eh bien, voilà, c'est parce que nous sommes encore dans un monde où le péché s'étale. Ou bien alors, le dernier argument, qui est le responsable, c'est la puissance et les ruses de Satan, c'est le diable. Bien non, chers amis, nous n'avons pas d'excuse. Par Jésus, nous pouvons être, et vous l'avez dit, plus que vainqueurs. C'est de notre côté qu'il y a eu quelque chose. Alors, est-ce que vous le croyez ce soir, que vous pouvez être plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, malgré les expériences passées, ou bien est-ce que vous voulez toujours être hypnotisé par votre passé, revenir toujours sur ce passé pour ne plus croire que c'est possible que vous ayez une vie autre, une vie remplie, une vie utile, une vie de paix, de joie et d'amour. Une vie qui ressemble au bonheur. Pas parce que les circonstances nous sont toujours favorables. Nous savons que Dieu veut notre bonheur. Moi, j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous embarquez ce soir? Que Dieu veut votre bonheur. Qu'il n'y a pas de doute, ce côté-là. Parce que le grand salut de Dieu, il ne nous apporte pas seulement le pardon des péchés. Et je suis, pour ainsi dire, écœuré de voir que pour beaucoup de personnes, le salut, c'est nos péchés passés donc sont pardonnés. On continue de vivre dans le péché. Et puis, on a l'assurance de la vie éternelle. On ne peut pas perdre son salut. J'ai l'assurance de mon salut, etc. On chante ça. On pourra mourir tranquille. Un salut pour mourir. Vous connaissez ça? Puis vous ne mourrez pas si tranquille que cela. Même si vous avez l'assurance de votre salut. L'assurance de la vie éternelle. Voyez-vous, le salut, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va pouvoir s'opposer à quelle faiblesse? J'en ai parlé. La faiblesse de ma chair. Je ne veux plus vivre selon la chair, mais je veux vivre par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la force de ma chair qui me rendra victorieux. Jésus lui-même a dit, la chair est faible. Mais la puissance du Saint-Esprit peut nous rendre victorieux. Et c'est cette puissance aussi qui peut me délivrer de l'attrait que le monde peut avoir. Car le Saint-Esprit me montre ça. Qu'est-ce que le monde a fait? Du seul juste, on l'a crucifié. Et vous pouvez aimer le monde, vous pouvez trouver que le monde, vraiment, est-ce que vous devez servir le monde? Pour l'apôtre Paul, c'est le système qui a crucifié Jésus. Il y a eu un juste sur la terre, il y a eu une heure dans l'histoire de l'humanité où on a vu un homme vivre à la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que le monde a fait? C'était un gêneur, et il a voulu s'en débarrasser. Et moi, qui me dis disciple de Jésus, j'aimerais le monde, je céderais à ses attraits, alors que ce monde a crucifié le Seigneur de gloire. Celui qui veut être du monde, dit Jacques, il se constitue ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. Et quand au pouvoir de Satan, est-ce que le Seigneur ne nous en a pas libérés? Il a vaincu Satan, il nous a libérés de son joug, de sorte que Satan est vaincu. C'est trop facile de dire c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Oui, Satan est l'adversaire. Mais il ne doit pas dominer sur nous. Il a attaqué Jésus. Mais vous voyez, ce que Jésus disait la nuit où il fut livré, le prince de ce monde vient, mais qu'est-ce qu'il ajoutait? Il n'a rien en moi. Satan ne trouvait pas de tête de pont dans le cœur du Seigneur. Mais chez nous, il trouve toujours une tête de pont. Et c'est comme ça que le Satan nous possède. Parce que nous tolérons des choses dans notre cœur qui ne sont pas de Dieu. Et il faut le dire aujourd'hui. Mais nous pourrions avoir la victoire. Mais alors, développons encore un instant ce premier point. Quels sont les dangers à éviter? Je ne vous donnerai que des pistes de réflexion. Les choses que nous ne devons pas commettre, que la parole condamne. Voyez-vous, il y a des dangers qui viennent de nous-mêmes, de notre cœur naturel. Les dangers qui arrivent de l'intérieur. C'est pourquoi il y a un verset que j'aime beaucoup dans les Proverbes, au chapitre 4, verset 23. Qu'est-ce qu'il est dit? Garde ton cœur, plus que tout ce que l'on garde, car c'est du cœur que viennent les issues de la vie. Et l'affirmation de Jésus dans Matthieu 15, verset 19 à 20, ou dans Marc 7, verset 20 à 21, il dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, et il y a toute la liste. Que le Seigneur nous donne pour nous montrer que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort du cœur. Alors voilà pourquoi le psalmiste s'écriait, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, psaume 119, verset 11. Et il est ajouté aussi, dans le verset 9, comment un jeune homme rendra-t-il pur sa voix, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Alors, de quoi devons-nous nous garder? Je vous signale un premier point. Gardez-vous de l'orgueil. Jacques 4, verset 6, parce qu'il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Cette résistance que nous ressentons, ben, elle est là quand il y a l'orgueil en moi. Il y a une résistance. Dieu résiste aux orgueilleux. Jésus, il était doux et humble de cœur. Si je me laisse aller à l'orgueil, je connais la résistance de Dieu. Et déjà dans Deutéronome, au chapitre 8, l'Esprit de Dieu, par Moïse, avait averti Israël, quand tu seras entré, ne te figure pas que quand tu jouiras de tous les biens de ce pays, que c'est toi qui t'es acquis tout cela. N'est-ce pas? Ne te laisse pas aller à l'orgueil et de penser, je suis arrivé à quelque chose. Parce que ces gens chrétiens qui pensent être arrivés à quelque chose et qui tombent dans l'orgueil, eh bien, ils sont près de la chute. Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne veut pas donner sa gloire à un autre. Si Dieu vous utilise, à qui est la gloire? À Dieu. Pas à vos mérites. Deuxièmement, gardez-vous de l'incrédulité. C'est tellement facile d'avoir un cœur incrédule. Jacques 1, versets 6 à 8, nous déclare que celui qui doute quand il prie, quand il va à Dieu avec une de ses promesses, qu'il ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. L'incrédulité, quand elle vient dans mon cœur, elle peut y venir souvent, je dois m'en humilier et m'en juger. Qu'il n'y ait pas, Hébreux 3, verset 12, parmi vous un cœur mauvais et incrédule. Et cela, il est dit que c'est aujourd'hui que ça ne doit pas arriver. L'incrédulité empêche Dieu d'agir. Puis il y a une troisième chose, et ça m'effraie, parce que les chrétiens admettent qu'il y a, je ne savais pas autrefois, il n'y a pas longtemps que j'ai appris cela, on l'apprend tous les jours, des mensonges blancs. Vous connaissez ça? Des mensonges blancs. Et on tolère ça. On donne occasion au diable. Parce que le diable est le père du mensonge, des blancs comme des noirs. Mais nous, nous vivons dans le gris. Alors, on se rassure. À force de mélanger le noir et le blanc, c'est tout gris. Alors, nous tolérons le mensonge et nous donnons occasion au diable. Ayons dépouillé le mensonge. Parlez la vérité chacun à son prochain, même si ça coûte. Apocalypse 14 nous dit que ceux qui suivent l'agneau ou qu'il aille, ils ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. Puis vous savez que la part de tous les menteurs, elle se trouve dans les temps de souffre au chapitre 22e. Donc, gardons-nous du mensonge, une autre piste. Gardons-nous de l'hypocrisie. Le Seigneur a dit que l'hypocrisie, c'était comme un levain qui fait lever toute la pâte. Luc 12, verset 1. Le levain des pharisiens, c'était l'hypocrisie. Se donner des airs. Mais, le dimanche, quand on va au culte, on a l'air pieux. Oh, misère! Quel air pieux! Mais vous savez, la gloire ne resplendit pas sur les visages qui sont masqués. On vient masquer dans les cultes. Tous ces gens qui ne portent jamais de masque, soi-disant, qui sont contre l'Halloween, moi aussi je ne sais pas, j'aime pas ça. Mais au fond, dans les églises, on fait l'Halloween. Ce n'est pas les petits-enfants. Mais on a un masque. Ôtez vos masques. Et j'espère que nous arriverons à dimanche en n'ayant plus de masque. Le Seigneur a en abomination l'hypocrisie et il ne peut pas nous bénir. La gloire de Dieu, sur quel visage est-ce qu'elle resplendit? Sur la face du Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. La gloire de Dieu resplendit sur la face du Christ. Elle ne resplendit pas sur les masques. Mais elle resplendit sur notre visage, si nous regardons le Christ. On n'a pas besoin de mettre un masque. Gardons-nous aussi des appétits sensuels, Galates 5, 19, il y a toutes les œuvres de la chair qui sont mentionnées. Et aussi dans Luc 21, verset 34, sur les excès du manger et du boire, et ça concerne aussi le sexe. La sobriété en toute chose, avoir cette maîtrise de soi. Mais si on ne se garde pas de nos appétits sensuels, eh bien, on donne occasion au diable. Puis je dirais aussi les soucis matériels. Je voulais souvent avouer que je suis un homme soucieux de nature et que j'ai dû confesser ce péché au Seigneur parce que Jésus dit « Ne vous mettez pas en souci pour votre vie. » Luc, chapitre 12, verset 5. Les soucis matériels. Il n'y a plus que ça qui compte. Mais vous me direz, vous n'êtes pas réaliste. Oui, mais nous sommes au soir de la journée, il y a encore la nuit, et le Seigneur peut intervenir. Mais on ne s'attend pas à une intervention du Seigneur qui pourrait venir même avant l'aube ou être préparé pour l'aube. Et alors on commencerait la journée avec une action de grâce quand on le fait entrer. Puis, la septième trace que je vous prie aussi de noter, c'est l'avarice. Gardez-vous de toute avarice. Un prêtre disait que dans les confessions, il n'avait jamais entendu un pénitent dire qu'il était avare. Hein? Sans libre. Et pourtant, on aime l'argent. On en veut toujours plus. L'argent, 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 l'argent. Mais c'est une racine de tous les maux que l'amour de l'argent, la parole de Dieu nous le déclare. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on ne soit pas heureux. Et qui est l'homme qui aimait l'argent et qui ne s'en est pas jugé et qui a coulé et qui s'est suicidé? C'est Judas. Parce qu'il aimait l'argent et Jésus lui avait donné les occasions pour s'en juger, pour s'en défaire. Il lui avait manifesté sa confiance. L'ambition des richesses. Oh, que j'aime cette sagesse des proverbes qui dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. » Proverbes 30, versets 7 et 8. Oui, jugeons-nous de nos tendances que nous connaissons très bien. L'orgueil, l'argent, le sexe. Mais maintenant, il y a les dangers qui viennent du dehors. J'ai parlé des dangers qui viennent du dedans. Et qu'est-ce que ce sont ces... Quels sont ces dangers qui viennent du dehors? Les influences que nous subissons. Par exemple, nos lectures. Quelles sont vos lectures? On me dit, allez, les Québécois, ils lisent plus maintenant. On regarde la télévision. Oui, mais quand même, vous lisez. Mais qu'est-ce que vous lisez? Voyez-vous, il y a aussi un verset qui m'a gardé dans toute ma jeunesse. Il est dit dans les Proverbes, chapitre 6, verset 27 et 28, « Un homme prendrait-il du feu dans ses vêtements sans être brûlé? Ou pouvez-vous marcher sur des charbons ardents sans mal? » C'est pas possible. Alors ne jouons pas avec le feu. La télévision, c'est quelque chose de merveilleux au fond, s'ils étaient bien employés. Si ceux qui la dirigent étaient autres que ce que l'on sait. Le cinéma aussi. Mais aujourd'hui, il faut tout avoir vu, il faut tout avoir entendu. Eh bien, cela, nous disons que c'est faux. Il y a des choses que nous n'avons pas à voir, parce que ça nous souille. Il y a des choses que nous n'avons pas à entendre. parce que ça entre dans nos pensées, puis ça bourdonne constamment. Puis il y a l'exemple des inconvertis. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nos fréquentations. Oh, mais c'est pour... je fréquente cette fille parce que je veux l'amener au Seigneur. Bon. Et j'ai entendu quelqu'un qui m'a beaucoup édifié. C'est une jeune fille, une jeune femme mariée, qui racontait un soir que son ami lui avait dit, si tu n'es pas sauvé, je ne te marie pas. Moi, j'ai trouvé ça admirable. Et la jeune fille disait qu'elle était presque tombée par terre quand elle a entendu cette phrase. Si tu n'es pas sauvé, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, je ne t'épouse pas. Et elle témoignait que c'était cela qu'elle avait travaillé et qu'elle a amené au Seigneur. Mais c'est beau. Mais il faut avoir des convictions. Puis il ne faut pas dire, oh ben, elle se convertira plus tard. Plus tard, c'est jamais. Puis il faut se veiller aussi des fausses doctrines. On lit n'importe quel journal, même la pure vérité, et un mot trop pur. Puis on trouve qu'il y a des choses bonnes, puis voilà, alors, on admet tout. La parole ne nous suffit plus. Mais dans mon deuxième point, la parole nous invite à veiller à cause des responsabilités que nous devons assumer comme chrétiens. Et quelles sont ces responsabilités? Qu'est-ce que devrait être notre vie? Une louange de gloire. Notre vie devrait être à la louange de la gloire de sa grâce. Vous direz, mais pour ça, il faut avoir une vocation. Mais vous l'avez, si vous êtes sauvé. Il vous a sauvé pour que vous soyez à la louange de sa gloire. Qu'est-ce que c'est? Bien, j'ai essayé dans le petit livre Être chrétien que ma femme va vous offrir encore, être le parfum de Christ, de Corinthiens 2:15. Être la lettre de Christ, être l'image de Christ, être le sel de la terre, c'est ce qu'a dit Jésus, ce qui donne le goût des choses de Dieu au monde. Est-ce que votre vie fait envie aux autres? Est-ce que votre vie donne le goût des choses de Dieu au monde? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sang de Dieu. Est-ce qu'on éprouve à votre contact que vous êtes habité par quelqu'un de plus grand que vous? Puis quand on veut vous trouver l'homme, est-ce qu'on sent que c'est le Christ que l'on trouve et non pas l'homme qui réagit selon la chair, un homme en Christ? Voyez-vous, notre enseignement, il doit être conforme aux Écritures. Vous devez, pendant cette fin de semaine, être comme les Juifs de Bérée, examiner chaque jour si ce que nous vous enseignons est selon l'Écriture. Je ne vous demande pas de me croire, mais d'exercer votre sens spirituel. Alors, le troisième point, pourquoi devons-nous veiller? Donc, parce que nous avons des dangers à éviter. Deuxièmement, parce que nous avons des responsabilités à assumer. Et troisièmement, eh bien, en pensant à cette année qui vient, nous devons veiller sur les trésors à conserver, sur les grâces obtenues et que nous ne devons pas nous laisser ravir. Nous devons veiller pour conserver toujours vivant le souvenir des faits qui constituent notre salut. Quels sont ces faits qui constituent notre salut? Le premier fait, il est là. La mort de Jésus sur la croix. C'est par sa mort que nous avons la vie. Mais pas seulement par sa mort, mais par sa vie, résurrection. Par sa mort, nous avons la possibilité de mourir à nous-mêmes et de nous tenir pour morts. Ce que signifie le baptême, le deuxième jour de la création, la séparation des eaux avec les eaux, oui. Mais il y a la résurrection de Christ. Et nous vivons, étant morts à nous-mêmes, dans sa mort, nous vivons de sa vie de ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il intercède pour nous. Son intercession dans la gloire. Et étant retourné dans la gloire, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Son esprit. Le Saint-Esprit, il est sur la terre. Il n'est pas à demander de redescendre du ciel. Il est sur la terre. Et s'il vous a convaincu de péché, il entre en vous et il va se manifester dans sa plénitude en vous. Ce n'est pas demander plus de plénitude. Vous êtes déjà rempli. Il faut demander plutôt le déménagement, hein. Enlever les vieux meubles pour que le Seigneur puisse s'installer en vous avec son mobilier neuf. Ce mobilier du ciel, c'est ça la plénitude du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est à l'étroit en nous parce que nous avons gardé tout vieux bazar. Et il faut faire venir la déménageuse via tout ça. Et que le Seigneur puisse vraiment s'installer. Alors nous connaîtrons une vie de plénitude. Puis aussi, l'effet que nous avons à conserver, c'est quelle idée, quelle pensée? Son retour. Car Jésus a dit, si je m'en vais, je reviendrai. Est-ce que vous êtes sûr de cela? La mort de Jésus, la résurrection de Jésus, l'intercession de Jésus dans le ciel, la venue du Saint-Esprit pour habiter dans nos cœurs, et puis pour nous donner la puissance du témoignage, et l'espérance de son retour. Alors, ne laissons pas Satan et le monde entamer notre foi. Sauvés par grâce, vivons pour plaire à celui qui nous a tout donné. Alors, veillons pour conserver sans cesse l'espérance vivante des faits à venir qui consommeront notre salut, car les promesses du Seigneur sont certaines et véritables. Après la grâce de maintenant, qu'est-ce qu'il y aura? La gloire. Christ reviendra, il revient, nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous ne mettons pas de date, mais nous voulons veiller et être prêts, nous voulons garder la parole de sa patience, parce que lui aussi est patient. Et c'est pourquoi je vous dis encore une fois, ce que je le dis à tous, veillez. Et mon dernier mot, c'est ceci, si d'ici 1992, nous voulons ignorer les dangers que présente pour nous la faiblesse de notre chair, la séduction du monde, la puissance du péché dans la chair, les destins, les ruses du diable, notre adversaire, si nous pouvons penser pouvoir négliger de revêtir l'armure complète de Dieu, selon Ephésiens 6, qui comprend la vérité pour ceinture, la justice pratique pour cuirasse, l'évangile de paix pour chaussure, le bouclier de la foi pour protection contre les dards enflammés du malin, le casque du salut pour maîtriser nos pensées et les amener toutes captives à l'obéissance du Christ, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, cette épée qui a permis à Jésus de vaincre toute tentation, si nous pensons que nous pourrons nous passer de la prière qui manifeste notre totale dépendance de Dieu, bien notre coupable ignorance et notre incroyable négligence, nous priverons de la grâce de Dieu et nous conduirons tout droit à la défaite, sinon à la perdition. Toutefois, comme Paul, je suis persuadé en ce qui vous concerne, mes bien-aimés, des choses meilleures et qui tiennent au salut. Hébreux 6, verset 9. Alors, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, les yeux fixés sur qui? Sur Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Alors, mes amis, j'espère que vous avez eu une nuit de repos. La première soirée était peut-être un peu fatigante pour vous. Vous aviez fait un voyage et puis on a attendu avant de commencer, alors c'était un peu plus tard. Et puis, peut-être que mon défaut, c'est qu'on me dit un peu partout où je vais qu'on n'est pas nourri. Peut-être que je vous en ai trop donné hier soir. Mais ce sont des pistes de réflexion et j'espère toujours que vous en ferez votre profit. Mais je ne voudrais pas vous donner non plus une indigestion. Seulement, j'essaye de vous donner le goût de la parole de Dieu et de vous permettre de la méditer. Puis enfin, je n'ai rien à regretter, tout en m'humiliant pour moi-même, parce que le texte que je vous ai donné hier soir, il m'a été imposé par le Seigneur. Ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Est-ce que vous pensez que ça venait du Seigneur?
Oui.
Il en est là pour. Et si on réfléchit, on est bien obligé de reconnaître que c'est le mot du jour. Si nous ne nous tenons pas sur nos gardes, même quand vous conduisez votre voiture, vous aimez respecter les lois parce que vous êtes chrétien, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne respectent pas du tout le code de la route. Alors vous devez non seulement être sérieux pour vous-même dans votre conduite, mais vous devez veiller sur votre droite et votre gauche parce que quelqu'un peut vous frapper. Et vous savez, j'étais très bouleversé l'autre jour. Enfin, il y a trois jours seulement, quand Françoise m'a annoncé le terrible accident qui a coûté la vie à un père et une mère chrétienne qui laissent trois enfants. En un instant, voilà des parents qui sont retranchés. Je ne connais pas les circonstances de l'accident. Mais enfin, nous sommes dans un monde où tout peut arriver. Alors, je pense que ce mot « veiller » nous convient. Et ce matin, je me demandais ce que j'allais vous donner comme parole pour cette journée. Et il m'a donné celle que j'ai inscrite au tableau. J'étais peut-être un peu fatigué ce matin, 4 heures, j'avais oublié de mettre le S. Vous voyez que nous avons tous nos faiblesses. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, qu'on a été avertis hier soir, vous l'êtes. Après une nuit de repos, le Seigneur va vous donner la mémoire pour vous rappeler les avertissements
qui vous ont été donnés hier soir et qui vous ont été donnés par le Seigneur. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Qui a dit cela? L'apôtre Pierre, justement un de ceux qui avait été averti par le Seigneur la nuit où il fut livré, d'être aussi de ceux qui devaient veiller. Les disciples, comme je l'ai dit hier soir, étaient rassemblés autour de lui, et puis Jésus leur dit, vous allez tous être scandalisés en moi. Tous scandalisés. Mais l'apôtre Pierre lui répond, mais quand même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et ne pouvait pas comprendre ça. Figurez-vous, lui, il avait confessé que le Christ, Jésus, était le Fils du Dieu vivant. Alors, ce n'est pas à lui qui devait être averti, et pourtant, oui, c'est lui qui devait être averti, car vous connaissez son histoire. Quelques heures après que Jésus lui lavait les pieds, il a renié par trois fois son maître. Et cela, si vous ne vous connaissez pas vous-même, si vous ne vivez pas dans cette défiance de vous-même, si vous pensez, mais moi, après toutes les années de vie spirituelle que j'ai eues avec le Seigneur, depuis ma conversion, avec toutes les connaissances difficiles que j'ai, ça ne peut pas m'arriver. Ça peut arriver à d'autres, mais pas à moi. Bien, c'est que vous ne vous connaissez pas vous-même et que vous êtes en grand danger, que la chute est proche. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Pierre était sûr de lui. Et il a dû faire faillite. Et voyez-vous, c'est quand on a su faire faillite que l'on apprend vraiment ce que nous sommes. Mais ce n'est pas nécessaire d'arriver à la chute. Il faut seulement prendre conscience, comme j'ai essayé de vous le montrer, de nos tendances naturelles dont on ne se juge pas. Et il nous faut nous en juger. On dit, mais c'est pas encore un péché, je ne l'ai pas fait. Non, vous ne l'avez pas fait, mais vous nous l'avons pensé peut-être. Et si nous ne nous jugeons pas, eh bien, un jour, notre péché intérieur nous trouvera. Et c'est là que nous allons tomber. Alors que le Seigneur nous garde, vous avez été avertis, et l'apôtre Pierre, dans son testament spirituel, nous dit, vous donc, bien-aimés, parce que vous êtes des bien-aimés, Dieu vous aime, mais vous avez été avertis, alors tenez-vous sur vos gardes. Dieu notre Père, nous voulons te bénir de tout notre cœur, parce que nous savons que tu nous aimes et que nous sommes tes bien-aimés. Tu as appelé Jésus ton fils bien-aimé, mais Jésus a pu te dire, Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. De sorte que maintenant, nous savons que nous aussi, nous sommes des bien-aimés. Mais parce que nous sommes des bien-aimés, tu voudrais que nous soyons gardés pour toi. Que nous soyons vigilants afin que nous échappions à tous ces dangers et qui nous entourent et que nous puissions nous laisser conduire par la puissance de ton esprit. Que cette journée qui vient de s'ouvrir soit pleine de ta lumière, de ta joie et de ton amour. et que l'œuvre que tu as commencée, tu la poursuives et que tu l'achèves pour ta seule gloire. En Jésus-Christ. Amen.